Leçon 7. Interprétation, étude de mots. Objectif de la leçon. 1. Apprécier la valeur d'une étude de mots approfondie. 2. Éviter les erreurs courantes lors de l'étude de mots. 3. Comprendre et appliquer un processus pour faire une étude de mots. 4. Reconnaître le langage figuré dans la Bible. Introduction. La Bible est riche de sens, mais malheureusement, certains lisent l'écriture sans en comprendre le message. Une grande partie du contenu de cette leçon provient du chapitre 9 de J. Scott Duval et J. Daniel Hayes, Grasping God's Word, Grand Rapids, Zondervan, 2012. La Bible est composée de livres, de chapitres, de paragraphes, de versets et de mots. Comprendre le sens des mots nous aide à interpréter correctement le passage que nous étudions. Cette leçon porte sur l'étude de mots. Nous étudions un mot pour comprendre sa signification dans un contexte biblique particulier. Il arrive que l'on étudie les mots grecs et hébreux originaux de la Bible à l'aide de ressources d'études bibliques. Ces ressources pour ce genre d'études de mots étant peu répandues, nous ne les aborderons pas dans cette leçon. Nous apprendrons plutôt à étudier les mots dans nos traductions locales de la Bible. Nous utiliserons un processus en trois étapes pour l'étude de mots. 1. Choisissez les mots à étudier. 2. Énumérez les significations possibles de chaque mot sélectionné. 3. Discerner ce que signifie chaque mot sélectionné dans le contexte du passage. Erreur courante dans l'étude de mots. Lorsque nous commençons à étudier les mots, nous devons éviter certaines erreurs, qui conduisent souvent à des interprétations incorrectes. Ignorer l'ancien sens d'un mot. Parfois, l'usage d'un mot change au fil du temps. Si la traduction de notre Bible a eu lieu il y a de nombreuses années, nous devons être conscients que le sens de certains mots peut différer de celui qu'ils ont aujourd'hui. Si nous ne comprenons pas comment un mot était utilisé autrefois, nous risquons de tirer des conclusions erronées sur le sens du passage étudié. Ce n'est pas vraiment un problème lorsque nous lisons une traduction de la Bible datant de ces dernières années. Supposez qu'un mot a la même signification dans tous les contextes. Les auteurs bibliques ont utilisé des mots ayant plusieurs sens possibles. Un même mot peut avoir un sens particulier dans un contexte et un sens différent dans un autre. Il est important d'examiner le contexte dans lequel le mot est utilisé pour déterminer le sens correct du verset étudié. Processus d'étude de mots. Première étape, choisissez les mots du passage à étudier. Il n'est pas nécessaire d'étudier en profondeur chaque mot de la Bible. Parfois, le sens d'un mot est évident. Par exemple, lorsque la Bible dit que David ramassa 5 pierres, 1 Samuel 17, 40. Il n'est pas nécessaire d'étudier le mot « pierre » pour en trouver le sens. Pour choisir les mots à étudier, rechercher, mots qui sont importants pour le sens du passage. Mots répétés, figures de style, mots peu clairs ou difficiles. Activité, lire Romains 12, 1 à 2, et entourer les mots importants à étudier. À côté du mot, indiquez la raison pour laquelle vous le choisissez. Un égal mot significatif. Deux égales à mots répétés. 3 égales, figure de style. 4 égales, mots peu clairs ou difficiles. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici quelques mots que vous avez peut-être marqués. Un égal mot significatif. Exhorte, offrir, conformer, transformer, renouvellement. Deux égales mots répétés, aucun dans ce passage. Trois égales figures de style, sacrifice vivant. Quatre égales mots peu clairs ou difficiles, culte raisonnable. Deuxième étape, énumérer les significations possibles du mot. La plupart des langues utilisent des mots de multiples façons, avec des significations très différentes. Le contexte permet généralement à l'auditeur de comprendre le sens recherché. Il arrive que des malentendus, parfois drôles ou graves, surviennent lorsqu'un auditeur ne tient pas compte du contexte et se trompe sur le sens du locuteur. Lors de cette deuxième étape, nous devrions essayer de réfléchir à toutes les utilisations possibles du mot. Si notre traduction de la Bible est ancienne, nous devrions également nous demander si le mot avait d'autres significations par le passé. Si nous utilisons une traduction plus ancienne de la Bible, consulter une traduction plus récente de la Bible peut également nous donner un aperçu de la signification probable d'un mot dans ce contexte spécifique. Un dictionnaire pourrait nous aider à dresser une liste de toutes les significations possibles. Étudier avec d'autres personnes pourrait également nous aider à réfléchir à des significations auxquelles nous n'aurions pas pensé. Si possible, examinez d'autres traductions de la Bible pour voir si elles utilisent le même mot. Consultez l'annexe pour une liste de sites web où vous pouvez lire la Bible dans différentes langues et versions. Si une traduction utilise un mot différent, comparez-les pour identifier les différences. Ont-ils le même sens? Sinon, en quoi diffèrent-ils? Le sens du passage est-il modifié par l'utilisation d'un mot différent? Troisième étape, discerner la signification du mot dans son contexte. Après avoir examiné les différents usages d'un mot et dressé une liste de ses significations possibles, vous êtes prêt à découvrir sa signification dans le passage étudié. Le contexte vous guidera. N'oubliez pas que l'auteur n'a pas voulu utiliser un sens particulier que seuls quelques lecteurs connaîtraient. Il souhaitait que le lecteur comprenne. Nous avons examiné l'importance du contexte dans la leçon 5. Nous n'aborderons donc pas ce sujet en détail. Pour résumer le rôle du contexte, nous examinons le verset, le chapitre et le livre qui l'entoure pour déterminer la meilleure définition d'un mot. Il y a des questions à considérer lorsque vous examinez le contexte et essayez de découvrir le sens d'un mot. 1. Y a-t-il un contraste ou une comparaison dans le passage qui aide à définir le mot? Lire Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Faites ensemble une liste de toutes les significations possibles du mot « périsse ». Vous pouvez utiliser un dictionnaire si vous en avez. Maintenant, considérez le contraste donné dans le verset. « Périr » est en contraste avec « avoir la vie éternelle ». Sur votre liste, quel sens du mot « périr » était le plus probablement voulu par Jésus dans cette phrase ? 2. Comment l'auteur utilise-t-il ce mot dans d'autres passages ? Le mot « monde » est également utilisé dans Jean 3, 16. Le mot « monde » peut signifier plusieurs choses, l'univers physique, tous les peuples, les nations civilisées connues, la société en général qui rejette Dieu. Les auteurs ont utilisé le mot « monde » pour désigner chacune de ces choses à divers endroits de l'Écriture. Pour discerner le sens de « monde » dans Jean 3, 16, il convient d'examiner d'autres exemples d'utilisation de ce terme par Jean. Jean 1, 10, « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. » Ce verset parle de Jésus, « Le monde ne le connaissait pas. » Jean 7, 7, « Le monde ne peut vous haïr. » Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jésus parlait dans ce verset. Le monde le hait. Jean 14, 17. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le monde ne reçoit pas l'esprit de vérité. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les valeurs et les aspirations du monde sont complètement opposées à celles de Dieu. L'apôtre Jean utilisait généralement le terme « monde » pour désigner la société qui rejette Dieu. Cela illustre l'étendue de la promesse de Jésus. Dieu a tant aimé ceux qui sont éloignés de lui, qu'il a donné son Fils afin que tous soient nous sauvés. 3. Que montre le contexte sur le sens du mot? Regardez Luc 1, 68 à 79. Dans Luc 1, 71, Zacharie cite Néhémie 9, 27 dans sa prière concernant Israël, que des libérateurs sauvèrent. À quoi fait-il référence? Que signifie sauver dans ce verset? Le concept de salut a plusieurs significations dans l'Écriture. Il peut notamment désigner la délivrance d'un ennemi ou d'un danger, la délivrance de la maladie, la délivrance du péché, le contexte immédiat, Luc 1, 68 à 74, montre que sauver fait référence à la délivrance d'un ennemi. La délivrance, le salut, accomplira la promesse que Dieu a faite à Abraham. Luc 1, 73. Quelques versets plus loin, Luc utilise salut dans un sens plus profond. Luc 1, 77. Sous la conduite du Saint-Esprit, Zacharie voit que son fils sera appelé prophète du Très-Haut. Ce fils donnera au peuple du Seigneur la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ici, salut est lié au pardon des péchés. Différentes significations de salut sont utilisées dans cette prière. Nous en déterminons le sens à partir du contexte. Un cas particulier, le langage figuratif. Dans la leçon 6, nous avons brièvement examiné l'utilisation du langage figuratif. Même si nous faisions une étude de mots soigneusement, nos conclusions seront erronées si nous comprenons mal le langage figuratif de l'auteur. Dans les figures de style, l'important n'est pas le sens littéral des mots, mais l'idée qu'ils symbolisent. Le contenu de cette section est adapté du chapitre 36 de Howard G. Hendrix et William D. Hendrix, Living by the Book, Chicago, Moody Publishers, 2007. Nous utilisons tous le langage figuratif. Imaginez qu'une amie américaine vous montre des photos de son jardin. Vous êtes émerveillé par son jardin et vous lui demandez « Comment faites-vous pour cultiver de si belles plantes ?» Elle répond « J'ai la main verte ». Elle ne veut pas dire que ses doigts sont littéralement verts. Elle utilise une figure de style américaine qui signifie « J'ai une capacité inhabituelle à cultiver des plantes ». Parfois, un mot est utilisé pour désigner autre chose. Ce n'est pas la même chose qu'un mot ayant plusieurs sens. Par exemple, dans la Bible, certaines personnes sont appelées chiens. Apocalypse 22, 15. Cette affirmation est une critique de ceux qui possèdent des caractères de chien que l'on ne devrait pas avoir. Le mot chien désigne toujours l'animal que nous appelons chien, mais il est utilisé au sens figuré pour désigner les personnes. Jésus a appelé Simon du nom de Pierre, qui signifie rocher, car Pierre avait une caractéristique d'un rocher qu'il est bon d'avoir, Matthieu 16, 18. Jésus utilisait le sens ordinaire du mot rocher, soulignant que Simon était comme un rocher d'une certaine manière. Jésus a traité Hérode de renard, Luc 13, 32. Inutile d'étudier les différentes significations littérales du mot renard, mais examinons le contexte pour comprendre de quel animal Jésus parlait. Il s'agit d'une expression figurée. Il faut donc essayer de comprendre ce que Jésus voulait dire à propos d'Hérode en le traitant de renard. Jésus voulait dire qu'Hérode était intelligent, mais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance en raison de son mauvais caractère. Comment savoir si une déclaration est littérale ou figurative? Voici deux lignes directrices à prendre en compte. 1. Utilisez le sens figuré lorsque le passage vous dit de le faire. Genèse 37 relate deux rêves. Dans la Bible, un rêve communiquait souvent un message figuratif. De ce fait, il ne faut pas s'attendre à ce que le rêve de Joseph signifie que des gerbes de blé s'inclineront littéralement devant une autre gerbe, ou que le soleil, la lune et les étoiles s'inclineront littéralement devant Joseph. Au contraire, l'affirmation selon laquelle il s'agit d'un rêve nous incite à nous attendre à un langage figuratif. Dans ce cas, l'interprétation est donnée en Genèse 37, 8, 10. 2. Utilisez le sens figuré lorsqu'un sens littéral est impossible ou absurde. Dans Apocalypse 1, 16, le Seigneur apparaît avec une épée aiguë à deux tranchants sortant de sa bouche. Dans un livre riche en images, il semble très improbable qu'il s'agisse d'une image littérale de Jésus. En poursuivant notre lecture d'Apocalypse, nous constatons que l'image de Jésus avec une grande épée à deux tranchants correspond au message de la victoire ultime de Dieu sur les puissances du mal. Rappelez-vous que Dieu a donné sa parole pour communiquer la vérité, non pour la cacher. Beaucoup de langages figuratifs dans la Bible seront évidentes. Nous avons vu une liste de figures de style dans la leçon 6. Elle vous donne une bonne idée de l'interprétation du langage figuratif. Après avoir reconnu la figure de style, demandez-vous « Pourquoi Dieu a-t-il inspiré cette image particulière ? Quelle vérité est communiquée par cette image ?» Parfois, un mot est utilisé au sens figuré et devient un symbole permanent. Quand Jésus dit « Mes brebis entendent de ma voix », Jean 10, 27, les auditeurs savaient ce qu'il parlait des gens qui le suivent. Et la Bible utilise ce symbole à d'autres moments. Psaume 23, par exemple. Dans Apocalypse 5, le lion de la tribu de Juda apparaît devant le trône de Dieu. Un dictionnaire biblique explique que « lion de la tribu de Juda » est un titre qui fait référence au Messie. Sachant cela, on se demande pourquoi Jean utilise-t-il ce titre? Qu'est-ce que ce titre nous apprend sur Jésus? Reconnaître cette figure de style nous aide à comprendre l'image que Jean se fait du pouvoir rédempteur de Jésus. Le fait que les auteurs bibliques aient parfois utilisé un langage figuratif ne signifie pas qu'il ne faille jamais interpréter l'écriture littéralement. Sachant que le langage figuratif a parfois été utilisé, nous devons essayer de comprendre le texte de la manière dont l'auteur a voulu. Il ne faut pas utiliser notre imagination pour donner à une déclaration biblique un sens que l'auteur ne cherchait pas à exprimer. Conclusion. L'auteur de Proverbes a fait cette promesse à la personne qui cherche la sagesse. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Proverbes 2, 4 à 5. Il n'y a pas de plus grande source de sagesse que la parole de Dieu. Votre étude de l'Écriture rapportera des récompenses éternelles. Leçon 7. Point clé. 1. L'étude de mots consiste à examiner les mots significatifs d'un passage afin d'en découvrir le sens dans leur contexte. L'étude de mots nous aide à interpréter correctement le passage que nous étudions. 2. Deux erreurs courantes à éviter lors des études de mots. Ignorer l'ancien sens d'un mot, supposer qu'un mot a la même signification dans tous les contextes. 3. Le processus d'étude de mots, choisissez les mots à étudier. Mots qui sont importants pour le sens du passage. Mots répétés, figures de style. Mots peu clairs ou difficiles. Énumérez les significations possibles de chaque mot sélectionné. Discernez ce que signifie chaque mot sélectionné dans le contexte du passage. 4. Des questions qui vous aident à discerner ce que le mot signifie dans son contexte. Y a-t-il un contraste ou une comparaison dans le passage qui aide à définir le mot? Comment l'auteur utilise-t-il ce mot dans d'autres passages? Que montre le contexte sur le sens du mot? 5. Choses à retenir lors de l'étude du langage figuratif. L'idée symbolisée est ce qui est important. Une image, une phrase ou un mot figuratif représente autre chose. Le langage figuratif attire l'attention sur les traits de ce qu'il représente. Nous devons essayer de comprendre le texte de la manière dont l'auteur a voulu qu'il soit compris, que le sens soit littéral ou figuré. 6. Quand interpréter une déclaration scripturaire au sens figuré. Lorsque le passage vous dit de le faire. Lorsqu'un sens littéral est impossible ou absurde.